1953, l'époque de la guerre froide. Les Américains ont fait exploser leur première bombe H il y a quelques mois. Les Soviétiques s'apprêtent à faire de même. 1953, l'année aussi où une jeune inconnue, Marilyn Monroe, fait la une de Playboy. Et où Ian Fleming invente son personnage de James Bond. Espion sexy et distingué, plein d'humour et qui répugne à tuer. L'exact opposé de notre espion, Alexandre Orlov. En avril 1953, dans son bureau de New York, le directeur de Life, le grand magazine américain, se frotte les mains. Il tient un scoop, un gros scoop, qui en pleine tension Est-Ouest, risque de faire du bruit et surtout de faire vendre. Life vient en effet d'être approché par un homme vivant aux États-Unis mais d'origine russe. D'une soixantaine d'années, cet homme moustachu et un peu chauve ne paye pas de mine. Mais ce qu'il raconte est tout simplement incroyable. Il dit qu'il a été dans les années 1920-1930, sous le nom d'Alexandre Orlov, un espion soviétique. Et que pendant la guerre d'Espagne, Staline lui a confié la mission de transporter l'or d'Espagne vers la Russie. Mais qu'en 1938, ajoute-t-il, craignant d'être victime des purges staliniennes, il a réussi, dans le plus grand secret, à fuir avec sa famille aux États-Unis, où il vit depuis maintenant plus de 15 ans la vie pépère d'un parfait petit bourgeois américain. Mais en 1953, Alexandre Orlov, qui a besoin d'argent, se risque pour la première fois à sortir la tête de son trou. Il a écrit ses mémoires et se met en tête de les vendre à Life Magazine. Et s'il ose le faire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard.
Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne? Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. Qu'en feront ses successeurs?
Le 5 mars 1953 donc, Orlov peut respirer. Pendant toutes ces années, même au fin fond du Michigan où il vivait avec sa femme et sa fille, même sous une fausse identité, Orlov vivait la trouille au ventre. Staline, il le savait d'expérience, n'avait pas l'habitude de pardonner aux traîtres et lançait des tueurs sur leurs traces, même au bout du monde. Léon Trotsky, la bête noire de Staline, en avait fait la cruelle expérience, assassiné en 1940 au Mexique par un agent soviétique. La mort de Staline est donc pour lui un soulagement. Mais Orlov est-il pour autant à l'abri aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. On comprend que pour ses mémoires, Orlov demande cher à Life, très cher. De son côté, Life demande des garanties. Après tout, et si ce type était un imposteur ou un mythomane? Pour authentifier son identité, Orlov propose de faire appel rien moins qu'à Ernest Hemingway, le célèbre écrivain américain qu'il a, dit-il, bien connu durant la guerre d'Espagne. L'écrivain, à l'époque correspondant de presse à Madrid, ne cachait pas sa sympathie pour les communistes, allant jusqu'à accompagner Orlov dans ses camps d'entraînement. Mais en 1953, Hemingway, qui vit à Cuba, est injoignable. C'est finalement un journaliste réputé du New York Times, Louis Fisher, qui certifiera reconnaître l'homme qu'il avait croisé en 1936 chez l'ambassadeur soviétique de Madrid. Ce témoignage permet à Orlov de signer avec Life. En guise de remerciement, Orlov, quelque temps plus tard, dénoncera Louis Fisher à la CIA comme étant un agent soviétique, ce qui était faux. Voilà qui donne un avant-goût du personnage. Disons-le tout net, Alexandre Orlov n'est pas un héros sympathique. Est-il même un héros? Plutôt un homme ordinaire au destin extraordinaire, comme le sont parfois les espions, sans scrupules ni idéal, d'intelligence moyenne, mais âpre au gain et, il faut le reconnaître, assez malin. Bon père de famille aussi, on le verra, est doué d'une sacrée chance, ce qui permettra à ce vieux routier de la terreur soviétique de mourir un jour de vieillesse et dans son lit. En 1953, Life publie donc les mémoires d'Alexandre Orlov, en plusieurs épisodes, histoire de mieux faire saliver ses lecteurs. Le livre lui-même, l'histoire secrète des crimes de Staline, sera vite un best-seller dans le monde entier. Orlov engrange notoriété et dollars. N'est-ce pas magnifique, en effet? Un ex-communiste proche de Staline qui a choisi le camp de la liberté. Mais les services secrets américains sont inquiets. Comment un ancien agent soviétique a-t-il pu entrer si facilement aux États-Unis et surtout continuer à y vivre à l'abri de tous les radars? Orlov est interrogé pendant des heures par le FBI et la CIA, ce qui ne l'empêchera pas de se faire recruter par la CIA comme consultant, grassement payé d'ailleurs. Alexandre Orlov, on le voit, n'est pas un transfuge comme les autres, ayant choisi l'Ouest par conviction idéologique. Mais qui est-il alors ? Un agent double, son histoire est plus complexe, unique en son genre même. Alexandre Orlov a un secret. Un secret bien gardé qui ne sera dévoilé que bien après sa mort, dans les années 1990, après la chute du communisme et l'ouverture des archives du KGB à Moscou. Le destin d'Orlov est indissociable de l'aventure bolchévique. Né en 1895 dans une famille juive de Biélorussie, Leïba Feldbin, c'est son vrai nom, aurait dû connaître le sort de ses co-religionnaires persécutés et ostracisés par la Russie des Tsars. En 1917, la révolution d'octobre est une chance pour ce jeune homme qui sait lire et écrire, bredouiller trois mots d'allemand. De toute façon, c'est toujours mieux que la masse illettrée des paysans russes. Il prend sa carte du parti, change pour la première fois de nom, Feldbin devient Nikolski, et s'engage en 1920 dans l'armée rouge, alors en guerre contre les Polonais. Il fait ses armes, non pas dans la cavalerie comme il le dira plus tard, mais, moins romantique, dans le sabotage. Détourner des informations, faire sauter des centrales électriques, des lignes télégraphiques ou des ponts. Et surtout, dans la chasse aux contre-révolutionnaires. Comprenez, arrestations, interrogatoires, intimidations, exécutions de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la révolution. Un apprentissage du sale boulot que Nikolski saura plus tard mettre à profit. C'est en 1924 que Nikolski, pistonné par un cousin, fait son entrée dans l'espionnage. Un secteur en pointe depuis l'arrivée au Kremlin d'un certain Joseph Staline, dont le pouvoir de plus en plus personnel et paranoïaque va s'appuyer sur la traque de ses ennemis. À Moscou, à la Loubianka, le sinistre bâtiment des services secrets soviétiques, réputé pour ses salles de torture au sous-sol, Nikolski va gravir tous les échelons de la Tchéka, qui prendra plus tard le nom de GPU, puis de NKVD, KGB ce sera plus tard. Entre-temps, Nikolski s'est marié. Avec son épouse, Maria, ils ont une fille, Vera, née en 1923. Mais la santé fragile de la petite fille nécessite des soins médicaux introuvables en Russie soviétique. Nikolski, bon père de famille, demande à être muté à l'étranger. Et c'est ainsi qu'il va devenir ce qu'on appelle un illégal, un de ces agents soviétiques qui agissent secrètement à l'étranger sans couverture officielle. En 1926, débute pour lui et sa famille une pérégrination d'une dizaine d'années dans les capitales européennes. Paris, Berlin, Vienne, Prague, Copenhague, Stockholm, Londres. Vera peut se faire soigner, Nikolski, lui, s'initie à la conspiratia, l'art de l'espionnage, tout en appréciant l'art de vivre à l'européenne. Loin de la misère russe, avec un salaire en dollars, comment s'en étonner ? En essayant d'imaginer Nikolski à Paris, je ne peux pas m'empêcher de penser au film « Ninotchka » de Lubitsch. Tourné en 1938, il raconte l'arrivée à Paris de trois représentants soviétiques qui rapidement succombe au plaisir décadent du capitalisme, avant d'être repris en main par une sévère commissaire politique débarquée de Moscou, immortalisée par Greta Garbo, qui elle-même tombera sous le charme d'un French lover irrésistible.
Vous désirez, monsieur ?
Non, je regarde simplement.
Camarade, pourquoi trahir vérité ? C'est magnifique.
De l'objectivité. Avons-nous équivalent en Russie ?
Non.
Tâchez d'imaginer comment on doit être bien dans ce hôtel.
On dit même qu'en sonnant une fois valet de chambre à cour, sonner deux fois c'est maître d'hôtel. Quand sonner trois fois, savez-vous qui arrive ? Belle souveraine.
Camarade, alors nous devons sonner neuf fois. Entrons vite.
Prudence, il serait sage que nous passions au hôtel Terminus. Moscou prend soin de réserver nos chambres. Il s'agit d'une mission officielle. Nous n'avons aucun droit de transgresser ordre supérieur.
Où est ton courage, camarade Boulianov ?
Est-ce toi le Boulianov qui te battait sur barricade ? Et voilà que tu as peur de te choisir chambre avec moi ?
Je ne veux pas aller en Sibérie.
Et moi, je ne veux pas aller au Hôtel Terminus.
Je ne veux pas aller en Sibérie.
Si Lénine était vivant, il te dirait Boulianov. Camarade, puisque tu as la chance d'être à Paris, ne fais donc pas idiot entre là et sonne trois fois.
Allons-y.
Mais Nikolski, lui, n'a rien de romanesque. C'est un agent soviétique sans état d'âme. Et c'est pendant la guerre d'Espagne qu'il va donner toute la mesure de son talent, connaître son apothéose, mais aussi bientôt sa chute. En février 1936 en Espagne, les élections législatives ont amené au pouvoir les partis de gauche réunis en Front Populaire. Une victoire que la droite ne peut accepter.
L'Espagne a la fièvre. Partout des incidents, des violences, des attentats politiques annoncent le drame qui se prépare. Cet été brûlant, commencé dans la liesse populaire autour de Largo Caballero et des leaders de l'extrême-gauche victorieuse, sera bientôt celui des moissons sanglantes. Les hommes du soulèvement national vont essayer le 18 juillet 1936 de s'emparer du pouvoir. Le général Franco, leur chef, s'est installé à Séville. La guerre civile est commencée, opposant bras tendus et poings levés.
Espagne ! Espagne ! Espagne ! Arrive Espagne !
Dès l'été 1936, Hitler et Mussolini apportent leur aide au camp nationaliste, alors que Staline vole au secours de la République à grand renfort de propagande sur l'amitié entre les peuples. Début septembre 1936, à Moscou, Alexandre Orlov apprend qu'il doit partir pour Madrid. Une mission qui tombe à pic. Orlov avait une maîtresse. Celle-ci, désespérée qu'il refuse de quitter son épouse, a eu le mauvais goût de se suicider devant le siège de la Loubianka à Moscou. Une situation bien embarrassante pour ce monsieur soucieux de sa carrière. Le 10 septembre, Orlov embarque avec sa femme et sa fille pour un long voyage en train en direction de la France. Après avoir installé sa famille à Perpignan, il arrive enfin à Madrid le 15 septembre 1936, découvrant un pays en guerre et une capitale assiégée par les armées de Franco. Mais n'allez pas croire qu'Orlov va prendre part au combat. À peine arrivé, il prend ses quartiers à l'hôtel Palace, un immense hôtel de luxe au cœur de Madrid où s'est installée la délégation soviétique. Un ancien soldat des brigades internationales se souviendra plus tard d'une rencontre avec Alexandre Orlov à son hôtel. Le soldat arrivait du front, tout crotté et mourant de faim, il fut stupéfait de découvrir l'agent communiste attablé devant son petit déjeuner servi par un domestique. Orlov ne proposa même pas une tartine au pauvre soldat. Dans « Pour qui sonne le glas », le roman d'Ernest Hemingway qui se passe pendant la guerre d'Espagne, Orlov apparaît sous les traits du général Glotz, homme de l'ombre, cynique, qui depuis son hôtel de Madrid ordonne meurtre et sabotage à ses hommes de main.
Servez-vous, Jordan.
Général Glotz.
Ah, c'est mon accent. On me reconnaît même dans le noir. Aujourd'hui, l'Espagne est creusée d'accents différents. Ah, des accents. Alors, Jordan.
Je vous cherchais avant la coupure de courant.
Oui, je vous ai vu. Ça s'est passé comment pour le train ?
Très bien.
Et pour Kashkim ?
Il s'est pris une balle.
Ah.
Il ne voulait pas être capturé vivant.
Uh-huh. Alors ça s'est fini comme ça.
Oui, par un meurtre.
Les ordres sont les ordres.
N'empêche que c'était un meurtre.
Écoutez, il faut tout oublier quand on fait ce métier. Tout à part la prochaine mission.
La première grande mission d'Alexandre Orlov en Espagne sera le transport de l'or espagnol vers l'Union soviétique. En septembre 1936, alors que Franco menace de prendre Madrid, l'urgence pour le gouvernement républicain est de mettre à l'abri la réserve d'or de la Banque d'Espagne. Environ 500 tonnes d'or fin, la quatrième réserve d'or du monde, entreposée dans les souterrains de la Banque d'Espagne à Madrid. Plus ou moins forcé par Staline, le gouvernement républicain décide le transfert de l'or vers l'URSS. L'or doit servir de garantie pour les soviétiques. L'aide apportée par l'URSS aux républicains espagnols en matériel, armes, chars, munitions et en conseillers militaires n'est en effet en rien un don gratuit. Le 14 septembre 1936, au petit matin, des miliciens et des carabiniers pénètrent dans la Banque d'Espagne à Madrid. Ils mettront plusieurs jours pour extraire l'or des coffres et des chambres fortes, les emballer dans 7200 caisses de bois, qui seront ensuite transportées par chemin de fer vers la base navale de Carthagène, sur la Méditerranée, et placées là sous la surveillance d'Orlov. Le 22 octobre, Orlov reçoit de Moscou le feu vert pour embarquer l'or vers la Russie. Les 7200 caisses sont donc chargées sur quatre cargos russes, le Kiné, le Kursk, le Volgoles et la Neva, qui trois jours plus tard prennent la mer en direction d'Odessa, le port soviétique sur la mer Noire. D'après Orlov, quand le 2 novembre à Moscou, Staline apprend que les navires sont arrivés à bon port, il aurait déclaré, un verre de vodka à la main,
les Espagnols ne reverront plus jamais leur or.
Volé ou pas par Staline, l'or débarqué cette nuit-là à Odessa ne sera en effet jamais restitué. Et désormais, l'Espagne républicaine se retrouve pieds et poings liés à la merci de Staline. Mais de tout cela, Alexandre Orlov n'a que faire. Ce qui compte, c'est qu'en bon petit soldat, il ait accompli sa mission. De Carthagène, il reprend dardard la route pour Madrid. Il faut faire vite. Ses amis l'attendent le soir même à l'hôtel Palace pour fêter un anniversaire. Et pas n'importe lequel, les 19 ans de la Révolution d'Octobre. En janvier 1937, en guise de reconnaissance de la patrie, Orlov reçoit la plus prestigieuse distinction soviétique, l'Ordre de Lénine. Pourtant, la mission principale d'Orlov en Espagne, dont il ne soufflera pas un mot dans ses mémoires, c'est la guerre secrète que lui et ses hommes de main mènent contre ce que Staline appelle la racaille, les communistes dissidents, les trotskistes et les anarchistes, et tous ceux prétendus tels qui rêvent d'une révolution sociale et incarnent une alternative possible à l'orthodoxie stalinienne.
Dans les usines, on voit apparaître des agitateurs suspects qui cherchent à dresser les ouvriers contre le régime, à susciter des grèves soudaines. Il s'agit de provocateurs qui ont pour mission de troubler la paix sociale afin qu'on puisse ensuite rejeter la responsabilité du désordre sur le front populaire. Lorsque la première échoue, ils tentent alors d'arrêter les centres de production pour provoquer le chômage. On cherche à faire monter le coût de la vie. Le prix du pain augmente. Et cependant, le blé pourrit dans les greniers. Mais le front populaire reste intact.
La politique de Staline en Espagne est indissociable de celle menée au même moment en URSS. 1936, c'est le début des célèbres procès de Moscou qui visent à éradiquer toute forme d'opposition. Puis en 1937-1938, ce sera la Grande Terreur. Plus de 700 000 citoyens soviétiques seront condamnés à mort et 800 000 autres, ennemis du peuple, envoyés au goulag.
Vous pouvez compter sur le fait que le camarade Staline pourra accomplir son devoir devant le peuple. Que les députés soient envers les ennemis du peuple, des combattants intrépides, impitoyables, comme l'était Lénine. Et qu'ils aiment leur peuple comme l'aimait Lénine.
Et donc, aussi étrange que cela puisse paraître, l'action du NKVD en Espagne visera moins à combattre les franquistes qu'à éliminer les forces de gauche qui ne se soumettent pas à Moscou et à réaliser, je cite, « la stalinisation de l'Espagne ». Et Alexandre Orlov sera l'homme de cette terreur. Dans un premier temps, il doit surveiller et déstabiliser les prétendus ennemis du peuple. Mais au printemps 1937, on passe à la vitesse supérieure. Il s'agit désormais pour Orlov de les liquider, les uns après les autres, systématiquement, sans preuve. La principale cible d'Orlov et de ses tueurs est le PUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, un mouvement très bien implanté en Catalogne, communiste mais dissident de Moscou, donc soupçonné de trotskisme. La manœuvre est simple, Orlov fait arrêter ses militants, chez eux ou en pleine rue, ils sont emprisonnés, torturés, jusqu'à ce qu'ils signent un document reconnaissant qu'ils sont des espions à la solde de Franco. Un socialiste anglais venu en Espagne pour défendre la République dans les rangs du PUM échappera de peu à la rafle. C'est l'écrivain George Orwell, le futur auteur de 1984. Dans son livre « Hommage à la Catalogne », il raconte son arrivée à Barcelone, alors qu'il revient du front, blessé, et espère naïvement profiter de sa permission auprès de sa femme. À peine entré dans le hall de l'hôtel, il voit sa femme qui lui ordonne de partir au plus vite.
« Va-t'en. »
« Ben, qu'est-ce qui se passe ?»«
Tu n'es pas au courant ?»«
Non. Au courant de quoi ?»«
Le PUM a été supprimé. Tout le monde est en prison, on dit qu'il commence déjà à fusiller. Il faut que tu partes. »
George Orwell, pour échapper aux hommes d'Orlov, se cachera plusieurs nuits dans les ruines d'une église avant, in extremis, de réussir avec sa femme à fuir l'Espagne pour la France. Entre-temps, Orwell aura vu avec stupeur disparaître ses compagnons d'armes. Des Catalans, mais aussi des Américains, des Écossais ou des Belges, comme lui, venu généreusement en Espagne combattre le fascisme et assassiner sans raison. Le 16 juin 1937, sur ordre direct de Staline, Orlov lance l'opération Nikolaï. L'arrestation à Barcelone d'Andrés Nin, le chef charismatique du PUM, figure mondiale du mouvement ouvrier. Celui-ci est conduit dans la prison d'Alcalá de Henares, dans la banlieue de Madrid. Mais une semaine plus tard, le leader catalan disparaît. D'après la thèse officielle inventée par Orlov, bientôt relayée par la presse communiste du monde entier, Andrés Nin, agent de Franco, aurait été libéré par des militants pro-nazis qui auraient surgi dans sa cellule avant de l'exfiltrer. Il faudra attendre les années 90 et l'ouverture des archives du KGB pour qu'enfin on connaisse la vérité. Andrés Nin est mort, victime des tortures subies par les hommes d'Orlov, en ayant jusqu'au bout refusé de signer de pseudo-confession. Ils auraient fait disparaître son corps, peut-être dissous dans de l'acide sulfurique. Des voix dans le monde s'élèvent pour protester, demander des preuves, mais le mensonge, inventé par le NKVD, finit par faire son œuvre, se transformer en vérité historique. Les militants du PUM et leur chef, Andrés Nin, étaient bien des agents de Franco et d'Hitler. Une opération réussie de mystification et de désinformation qui terrifiera George Orwell.
J'ai vu des soldats qui avaient bravement combattu être dénoncés comme des lâches et des traîtres, et d'autres qui n'avaient jamais tiré un seul coup de fusil, proclamés comme des héros de victoires imaginaires. J'ai vu l'histoire rédigée non pas conformément à ce qui s'était passé réellement, mais à ce qui était censé s'être passé, selon les diverses lignes du parti. Le mensonge sera devenu vérité.
C'est de cette expérience terrifiante que George Orwell tira sa réflexion sur le totalitarisme et l'écriture de 1984. Mais Mais en 1938, la terreur lancée par Staline va s'emballer et se retourner contre ses propres exécutants. Même contre le chef du NKVD, l'ordonnateur de la Grande Terreur, surnommé le Nabo sanguinaire, Nikolaï Yedjov, salué il n'y a pas si longtemps par Staline lui-même.
Товарищи, враги хотели нашу молодую советскую республику.
Camarades, les ennemis voulaient diviser notre jeune République soviétique en morceaux. Mais nous avons le NKVD que dirige un fidèle stalinien, Nikolaï Ivanovitch Yedjov. Vive notre cher ami, créateur de l'humanité, le camarade Staline.
Yedjov sera bientôt démis de ses fonctions, arrêté et fusillé. De même en Espagne, les agents du NKVD qui se sont employés besogneusement à liquider les ennemis du peuple sont les uns après les autres rappelés à Moscou puis éliminés sans pitié. Orlov, qui a du flair et un sacré instinct de survie, qui voit ses confrères partir et ne pas revenir, comprend qu'il sera bientôt le prochain. Il voit juste. Le 9 juillet 1938, Orlov reçoit un télégramme de Moscou lui ordonnant de rejoindre au plus vite le port d'Anvers, en Belgique, où l'attend un cargo soviétique. Il faut fuir, et vite, car il sait que les tueurs de Staline, s'il n'est pas au rendez-vous, partiront immédiatement à ses trousses. Après avoir volé dans les caisses du NKVD à Madrid la coquette somme de 90 800 $, l'équivalent d'1 500 000 $ actuels, Orlov file en voiture vers le sud de la France, récupère sa femme et sa fille, et la peur au ventre, ils embarquent tous les trois dans un train de nuit pour Paris. Le lendemain, 13 juillet, ils réussissent à rejoindre Cherbourg et à embarquer sur un navire en partance pour le Canada, d'où ils réussiront à entrer aux États-Unis. Leyba Feldmin, alias Orlov, qui en 1924 avait prêté serment à la Tchéka, vient donc de faire défection. Mais Orlov ne se contente pas de fuir. Il sait que le NKVD sera sans pitié, qu'il ne renoncera jamais à le pourchasser, même au bout du monde, pour l'assassiner. Orlov a un plan de génie, qui sera le grand secret de sa vie. Il écrit une lettre au patron du NKVD, une lettre qui ne sera révélée que dans les années 1990. Orlov y dresse une longue liste d'informations top secrètes, que Moscou, il le sait, tient à ce qu'elle reste secrète. Le transport de l'or espagnol vers la Russie, la liquidation du POUM, mais aussi l'existence de taupes pro-soviétiques haut placées dans les services secrets anglais comme Kim Philby. Orlov tient ainsi à faire comprendre à Moscou qu'il sait beaucoup de choses et que celles-ci seront révélées si un jour il arrive malheur à lui, Orlov, ou à sa famille. Non sans une certaine élégance, Orlov écrit qu'il n'est pas un traître, qu'il n'a pas choisi de quitter son pays. Donc, écrit-il au chef du NKVD,
« Ordonnez à vos hommes de ne plus me poursuivre. Si vous me laissez tranquille, je jure solennellement que jusqu'à la fin de mes jours, je ne prononcerai pas un mot qui puisse porter préjudice au parti qui a fait ce que je suis devenu, ni au pays qui m'a vu grandir. » 23 juillet 1938.
La lettre est signée Lev Nikolsky. Cette lettre écrite, Orlov demande à un cousin qui vit aux États-Unis de se rendre en France avec cette lettre et de la déposer à l'ambassade du RSS à Paris. Ce qui sera fait. Et c'est ainsi qu'Orlov vivra sans être jamais inquiété. Mais vous me direz, et quand en 1953, Orlov décide de faire publier ses mémoires dans Life, quand il collabore avec le FBI et la CIA? La seule raison pour laquelle il se décide à parler est-elle la mort de Staline? En réalité, on le découvrira plus tard, et c'est le plus extraordinaire, Orlov tient parole. Dans ses mémoires ou dans ses déclarations aux services secrets américains, il ne flanche jamais. Orlov donne des informations, mais uniquement de peu d'importance. Ou d'autres, au contraire, issues de son imagination. Le vieux renard, espion depuis 1924, passé maître dans l'art de brouiller les pistes, d'inventer ou de réinventer la vérité, ment aux lecteurs de Life comme aux hommes du FBI et de la CIA. Mais pour quelle raison cet espion passé à l'Ouest, homme sans scrupules, pourquoi a-t-il tenu parole? Par peur de représailles ou par une obscure fidélité patriotique? On ne le saura jamais. Leïba Feldbin, alias Nikolsky, alias Alexandre Orlov, née en 1895 en Bessarabie, meurt dans son lit à Cleveland le 25 mars 1973. Il existe à Washington un musée de l'espionnage. Derrière une vitrine dédiée à Orlov, parmi quelques objets un peu surréalistes se rapportant à lui, est exposée une petite boîte en carton. Elle contient les cendres d'Alexandre Orlov. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.